Alors bonjour à tous, je vais vous montrer mon sujet de recherche, donc l'état de la prise en compte du changement climatique par les viticulteurs de l'AOC Montlouis-sur-Loire. Alors il y a mon étude de Master 1 et il y a celle du projet tutoré des Master 2, donc l'année juste après moi, donc qui sont mes aînés. Alors nous on travaille sur l'état de la prise en compte du changement climatique par les viticulteurs de l'AOC Montlouis-sur-Loire, parce que sans prise en compte du changement climatique par les viticulteurs, il ne peut pas y avoir d'adaptation, ou tout du moins une adaptation qui soit efficace du changement climatique. Alors, je n'ai pas le
Ah oui, on
petit.
n'a plus de DAF en fait. Il n'y a pas de compteur.
Alors, en guise d'introduction, je vais faire un petit récapitulatif de l'impact du changement climatique sur la vigne et le vin.
Je peux même pas appuyer dans le tournant.
Alors, on a vu que on constate un réchauffement climatique à l'échelle globale qui se traduit par une avancée des stades phénologiques, qui va exposer nos vignobles français à une exposition au risque de gel printanier, qui va affecter donc une baisse de rendement. La sécheresse et les fortes chaleurs vont également affecter les baisses de rendement, comme on a pu le voir précédemment. Et l'augmentation des températures va modifier la composition des raisins. On va avoir une augmentation du taux de sucre, une augmentation du degré d'alcool et une diminution de l'acidité, qui vont donc changer la modification de la typicité des vins produits par la vigne. Donc les deux problématiques que l'on soulève, c'est donc la baisse de rendement et la modification de la typicité des vins. C'est un problème qui est majeur quand on se trouve dans le cadre d'une appellation d'origine contrôlée, parce qu'on doit répondre à un cahier des charges précis qui définit une typicité des vins précise, et donc les rendements pour l'exploitation. Alors pour nous, notre cas est un peu différent de ce qu'on a pu voir avant, parce que les vignobles du Val de Loire, de la région viticole du Val de Loire, pour eux, le réchauffement climatique a été bénéfique au cours de ces 30-40 dernières années. On assiste à un bon développement de la filière vitivinicole. En fait, aujourd'hui, le changement climatique, il est perçu comme bénéfique, en fait. Alors, voilà. Donc, au niveau du plan, on va premièrement s'intéresser au vignoble de l'AOC Montlouis, un peu présenter le contexte, ensuite les enjeux de la viticulture à Montlouis-sur-Loire, et dans une troisième partie, l'adaptation au changement climatique, de la sensibilisation aux modifications de pratiques. Alors, première partie, le vignoble de l'AOC Montlouis. Alors, le vignoble de l'AOC Montlouis, il se situe donc en région Centre-Val de Loire, à proximité, donc dans l'espace périurbain de l'agglomération de Tours, à l'est. Donc sur la commune de Montlouis-sur-Loire. On se trouve donc dans le Val de Loire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cela, donc dans notre partie suivante. Excusez-moi pour la présentation. Donc un paysage emblématique du Val de Loire. Alors en effet, comme on a pu le voir précédemment, on se situe dans un vignoble donc, qui est classé. Et on a un réseau caractérisé donc, par un paysage particulier, donc avec un réseau hydrographique précis. J'ai oublié de le dire, on est situé entre la Loire au nord et le Cher au sud, avec ses affluents qui serpentent. On est délimité par donc, des plaines, deux plaines alluviales au niveau des deux fleuves,
De coteaux.
des coteaux. Coteau donc, au sud et un coteau au nord. Et on va retrouver donc, la vigne sur les plateaux et les coteaux. Donc on constate donc une occupation du sol diversifiée. La vigne est donc productrice d'un paysage particulier, comme on peut le voir, donc avec la palette chromatique et texturale diversifiée. Donc on a la présence donc d'un horizon boisé de haies bocagères, d'espaces de culture céréalière et des espaces de vigne. Et donc au niveau du climat, on a un climat tempéré au cyanique dégradé. On va avoir des conditions, des températures qui vont être propices à la culture de la vigne. On est situé entre 7,5 et 16,1 degrés en moyenne. On a donc des périodes de grand froid et de forte chaleur, donc qu'on a constaté au cours des 30 dernières années avec le réchauffement climatique. La pluviométrie donc est aussi propice parce qu'on est à 696 mm de pluie par an. pour avoir une bonne, pour que la quantité d'eau qu'il faut nécessaire donc pour un bon développement de la vigne par an, c'est environ 600 000 m par an. On a également des bonnes conditions d'ensoleillement. On est à 1833 heures par an. Le taux doit être compris entre 1200 et 2000 en effet heures par an. Et comment dire, avec la problématique donc du changement climatique, on assiste à des phénomènes, des extrêmes climatiques qui vont être beaucoup plus fréquents. On va avoir donc des périodes de canicule et des hivers de plus en plus rigoureux, comme nous montre la photographie de 1976, où la Loire à Tours est à sèche. Alors là où c'est Mont-Louis. En elle-même, Mont-Louis-sur-Loire. Alors, c'est une AOC qui date de 1938. Ça date avec la séparation donc d'un AOC, d'une AOC un peu plus haut, celle de Vouvray, des vins de Vouvray. Et l'AOC Mont-Louis-sur-Loire donc peut se cultiver donc l'aire géographique comprend trois communes, celle de Mont-Louis-sur-Loire, Luçon-sur-Loire et Saint-Martin-le-Beau. Le cépage, c'est un monocépage donc qui va être cultivé sur cette AOC, le Chenin blanc. Et on va avoir une agriculture qui va être caractérisée donc par 35% d'agriculture biologique, 35% en terravitis et 30% en conventionnel. Alors le Chenin blanc en lui-même, le Val de Loire, la région viticole du Val de Loire est la quatrième, le quatrième vignoble français. Non, c'est le cépage du Chenin. C'est le quatrième cépage le plus cultivé en termes de surface dans le Val de Loire, dans la région viticole du Val de Loire. Et on y trouve 95% du chenin français. Alors au niveau de ses caractéristiques, il se porte très bien donc, aux conditions climatiques plus chaudes qu'on a pu constater. En revanche, il est sensible à plusieurs maladies telles que l'esca, qui est un champignon. Et en revanche, il va avoir une phénologie, il va débourrer plus tôt. Ce qui fait qu'il va être plus sensible au phénomène au risque de gel printanier. Alors là, on a un graphique qui nous montre au cours des 200 dernières années l'évolution donc de la superficie viticole à Mont-Louis-sur-Loire. On voit qu'elle est en déprise surtout à partir donc des années 1950 qui se corrèlent avec l'urbanisation, l'expansion de l'urbanisation. Et le développement de l'espace périurbain de Tours au cours des 50 dernières années, ce qui va nous amener donc à la suite.
On peut zapper ça.
Oui, on n'est pas obligé de le faire.
Oui, il n'y a pas le temps.
Oui, on n'a pas le temps.
Tu peux.
Donc la deuxième partie nous amène à nous intéresser aux enjeux de la viticulture à Mont-Louis-sur-Loire. Et là, on en arrive donc à une carte. Donc, qui nous présente donc l'adaptation de la vigne face à l'étalement urbain de Mont-Louis-sur-Loire. Donc, on voit la zappe délimitée par les contours rouges que vous pouvez voir. Alors, la zappe, c'est la zone agricole protégée. Alors, c'est un outil juridique important parce que elle a été alors sur Mont-Louis-sur-Loire, elle a été elle a été appliquée, installée en 2007. Elle a pour objectif en fait de limiter l'étalement urbain et donc de protéger la vigne, parce que donc la vigne et donc le syndicat de vin de Mont-Louis-sur-Loire a été un acteur déterminant quant à la délimitation donc de cette zone agricole protégée, parce que donc la vigne est productrice d'un paysage et d'un patrimoine dont la commune ne veut pas se détacher pour donc déjà premièrement l'intérêt culturel et l'impact territorial que ça a sur le développement du territoire. Alors sur le vignoble de Mont-Louis-sur-Loire, la problématique perçue première du changement climatique, c'est le gel. C'est un vignoble, comme de nombreux vignobles français, qui est de plus en plus sensible depuis 6-7 ans au risque de gel printanier. Alors, quant au niveau de l'évolution des températures sur le vignoble de Mont-Louis-sur-Loire, on est donc on peut constater donc l'évolution des températures. Alors au niveau des prévisions, comme je vous l'ai dit précédemment, on est dans des conditions au niveau des températures qui sont propices et qui sont excellentes pour la culture de la vigne ici. Alors au niveau des horizons 2025 et 2100, 2025-2050, les prévisions montrent une augmentation des températures moyennes allant comprise entre en moyenne 1 et 4 degrés au niveau des prévisions. Et cette augmentation des températures remet en cause la culture de la vigne telle qu'on la connaît aujourd'hui dans le cadre de l'AOC Mont-Louis-sur-Loire. Et donc cette augmentation des températures, qu'on a pu constater également au cours des 30 dernières années, a un impact donc le stade phénologique de la vigne. On constate donc une avancée de ce stade des stades phénologiques. On va voir donc que le débourrement qu'on peut avoir, donc que vous voyez au niveau de la première ligne à la période actuelle, que cette période de débourrement s'est avancée et se retrouve dans une période où en fait il va geler. Il n'y a pas plus de période de gel qu'avant, c'est juste que la vigne en fait se retrouve plus sujette à rencontrer en fait le gel et donc à créer un risque de gel printanier. Et donc l'impact de l'évolution du climat sur la viticulture aux horizons 2030 et 2080. Alors au printemps, donc de fin mars à avril, on a la période donc du débourrement. On va avoir donc un débourrement qui va être plus précoce et comme j'ai pu vous le dire précédemment, la vigne va être sujette plus sensible au risque de gel printanier. Alors de mai à juin, au niveau de la floraison, le risque de grêle et de gel est également donc perçu. Au niveau la saison estivale, l'été, à partir de juillet, on va avoir donc la période de la nouaison et la vigne va être sensible, comme on a pu le voir précédemment, au risque d'échaudage et de grillage. Enfin, ça correspond au fait au grillage de la baie. Et en août, lors de la période de véraison, on va avoir, lorsque on n'est pas encore à la période de maturation qui va suivre après, c'est là que va se faire avec l'augmentation des températures, donc le réchauffement. L'augmentation du degré d'alcool, la diminution de l'acidité, et ça va du coup avec ça va changer les arômes du vin, notamment qu'on a pu le voir précédemment avec l'indice de fraîcheur de nuit qui a augmenté et donc qui traduit donc une amplitude thermique qui est de plus en plus faible et qui ne favorise pas le bon développement des arômes. Du coup, au niveau de l'automne, on va atteindre la période de maturation. L'apparition donc, de pourriture noble. Au niveau des vendanges, la maturation elle va être plus précoce et elle va se faire dans des conditions beaucoup plus chaudes. Et c'est là qu'on va, comment dire,
Il va faire très chaud au moment des
Voilà, il va
vendanges et
faire très
ça
chaud au
peut
moment
poser
des
problème
vendanges et
sur
du coup ça va changer
l'infrastructure.
la qualité des raisins. Et
Il faudra
voilà,
refroidir.
exactement. Donc on va vendanger par exemple dans des conditions plus fraîches, par exemple vendanger plus tôt le matin et avec des méthodes de vinification différentes. Alors on arrive à l'hiver et donc à partir donc du mois de janvier, on va commencer donc à tailler la vigne et on est passé donc d'une taille de vigne courte. Une taille de la vigne plus longue afin de limiter le risque de gel. Et ensuite, février-mars, on va être donc sur un travail du sol afin de limiter l'érosion des sols et de préserver donc la qualité des sols afin d'avoir des racines, les racines de la vigne qui vont pouvoir les plonger plus profondément dans le sol pour aller chercher la ressource en eau disponible. Et du coup, je vais laisser le reste, la suite de l'étude à Isabelle.
Sinon, je vais me mettre là, Paul, pour pouvoir faire bouger les diapositives, parce qu'on a plus le pointeur. Non, je ne sais pas où il faut. Si,
c'est très bien. Juste là.
Donc, au niveau de l'adaptation au changement climatique, donc par rapport à tous ces enjeux qu'on vous a présentés, et de la sensibilisation, où est-ce que on se positionne. L'étude, elle avait proposé pour essayer de comprendre quelles étaient les réponses à l'adaptation au changement climatique, déjà de se positionner à différentes échelles temporelles. On a distingué trois catégories de réactions au niveau du temps. Tout d'abord, le court terme, ça veut dire ce qui va être engagé dans l'année en cours.
même si ça peut être par anticipation, il peut y avoir deux types de réactions à court terme. On peut avoir une anticipation sur ce que l'on va trouver dans l'année, ou alors se confronter à un problème, par exemple un extrême météorologique, et on considère d'y répondre dans l'année, au cas par cas, en fonction de la crise ou de l'événement auquel on aura à faire face. Le moyen terme, c'est que là, on est quand même capable de se projeter un petit peu. Bon, 2030, finalement, ça va arriver assez vite, mais pour un viticulteur, il s'est déjà projeté quand il a planté sa vigne. Donc, est-ce qu'il a, quand il a planté sa vigne, pensé qu'il allait avoir, à 2030, déjà un réchauffement, qu'il allait être confronté à d'autres choses? Est-ce qu'il a anticipé ou pas? Quelle capacité il a à anticiper ce à quoi il va faire face à moyen terme? Et le long terme, là, ça demanderait vraiment une réflexion et une planification beaucoup plus importante, une réorganisation à l'échelle de son exploitation. Se projeter à 2080, bon, je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup à le faire, même au niveau individuel, bon, il y a des choses quand même qu'on anticipe. Bon, quand mes enfants auront tel âge, quand j'aurai payé ma maison, voilà. Là, on fait face à une exploitation économique. Donc, est-ce qu'il y a cette vision à long terme ou pas? Et quelles répercussions ça a sur les pratiques au champ, au niveau de l'œnologie ou au niveau de la commercialisation? Donc c'est ces questions-là un petit peu que l'on se pose et que l'on pose aux acteurs. Donc voilà, hein, une réponse aux aléas climatiques lors de la saison viticole pour le court terme, une anticipation plus poussée aussi peut-être sur les techniques, sur l'innovation, pour l'adaptation. Et le long terme, là, c'est vraiment des changements profonds s'il y avait à revoir sa copie par rapport à une nouvelle information sur ce que va être le climat en 2080, sachant qu'on a bien compris qu'il allait être très très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans les solutions d'adaptation qui ont été proposées par les vignerons qu'on a entendus, il y a des modifications de pratiques qui ont été proposées collectivement, et je reviendrai dessus, individuellement. Alors ça, c'est pas forcément facile à collecter, là je reviens à votre remarque, il faudra avoir vu tous les vignerons, et que tous les vignerons nous, à ce moment-là, disent effectivement ce qu'ils sont en train de tester ou pas, hein, parce que on peut les avoir rencontrés, ils nous ont pas forcément dit tout ce qu'ils faisaient au niveau individuel, c'était la première conclusion de la restitution qu'on a faite. On a aussi constaté que l'adaptation était faite quand même beaucoup sur une vision à court terme des problématiques liées au changement climatique, et que ce qui monopolisait les actions individuelles et surtout collectives, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectifs sur ce territoire, c'est la lutte contre le gel, qui est un problème qui se répète, hein, et qui oblige de toute façon à réagir tout de suite, parce que là c'est pas compliqué, hein, si la vigne subit le gel, on perd toute la récolte. Cependant, investir tous les efforts dans la lutte contre le gel, ça pourrait ne pas suffire pour être durable par rapport à l'évolution du changement climatique, parce que même si intuitivement et réellement, par rapport au réchauffement, le nombre de jours de gel diminue, et ça c'est vrai, le nombre de jours de gel diminue, mais le risque augmente parce que la phénologie de la vigne évolue plus vite que ce nombre de jours de gel va diminuer. Et si on débourre en janvier, fin janvier, ce qui va être le cas en 2080, et là on débourre de plus en plus tôt, eh bien le risque de gel, il est de plus en plus important. Là, il faut savoir quand même que on a des exploitations viticoles qui ont fait face à 3 années successives de gel, avec des exploitations qui sont encore debout, avec parfois peu de stock. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent supporter 3 calamités de suite consécutives et être toujours présents. C'est le cas pour la plupart des exploitations, mais ils sont quand même dans une situation très critique pour la plupart. Et nous, en plus, on leur dit que ce qu'ils font, il faut qu'ils prennent en plus la mesure que ce risque, il va être encore plus important dans les années à venir et qu'il va peut-être falloir réfléchir encore à d'autres choses pour pouvoir mieux se prémunir de ce risque de gel. Alors, il y a d'autres choses qui sont testées, là, plus au niveau individuel, qui avaient été mis en exergue par l'étude, c'est qu'il y a des planifications à l'échelle de l'exploitation, notamment sur la taille. En fait, pour repousser le débourrement, hein, vous l'avez compris, le chenin, il résiste très bien à la chaleur, y compris à la sécheresse, mais par contre, le gel, ça ne lui va pas du tout. Mais on peut, en fonction du travail que l'on a à l'échelle de la parcelle, repousser la sortie du bourgeon, On peut aller jusqu'à une quinzaine de jours, si j'ai bien compris. Mais ça veut dire qu'il faut tailler le plus tard possible. Mais là, ça veut dire qu'on fait appel à un autre problème, la capacité à tailler sur une période très courte, en concentrant la main-d'œuvre. Or que tout le monde a la même problématique. La main-d'œuvre est un problème crucial, hein, au niveau économique. Et comment on fait appel à la main-d'œuvre ? Il y a un peu de main-d'œuvre permanente dans les exploitations, mais pas beaucoup, parce que vous savez, comme tout le monde, ça coûte très cher. Et puis, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et là, donc, la problématique de la taille peut fonctionner, mais dans certains cas, et au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus. Ou en tout cas, ça demande à être planifié véritablement, en fonction des parcelles que l'on a. Ça demande aussi d'identifier les parcelles qui sont les plus gélives et d'avoir un système météo au point et collectif pour savoir comment s'organiser. Autrement dit, c'est un petit peu un plan d'analyse des dangers comme on le ferait pour la gestion de l'inondation, la gestion de la sécheresse au niveau des communes. Pour l'instant, ça, c'est pas en place. C'est optimisé à l'échelle de l'exploitation, parfois au niveau des syndicats ou au niveau des voisins, mais c'est pas si simple à mettre en place. Il y a des choses qui existent. Mais avec l'augmentation du risque de gel, on ne va pas pouvoir repousser cette technique. Elle va avoir ses limites aussi. Elle est utile pour le moment, mais elle sera à un moment limitée. Une remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, la sécheresse est bénéfique. J'exprimais ça aussi au colloque international du Chenin. Pour le territoire du Val-de-Loire, et en particulier pour Mont-Louis, il me semble, et vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais aujourd'hui, on fait un vin de très bonne qualité. Les trois types de vins, que ce soit le pétillant ou le vin tranquille, ou le liquoreux, notamment parce qu'il y a eu un réchauffement climatique. Le réchauffement climatique de ces 30 dernières années, hein, c'est quand même 1,5 degré. Et les vignerons ont adapté leurs pratiques. Et ont fait un vin d'excellente qualité. Donc ce n'est pas forcément la période la plus propice pour considérer de changer encore les pratiques pour faire autre chose. Parce que finalement, on est super content de ce qu'on a fait. Sauf qu'il y a d'autres enjeux. Alors qu'il y a déjà à faire face chaque année à la problématique du gel. Donc c'est compliqué. Donc effectivement, il y a effectivement besoin d'aide pour coordonner des actions et des stratégies au niveau des syndicats, mais peut-être aussi plus largement à l'échelle de Comcom ou d'autres échelles du bassin, pour le bassin de la Loire au niveau viticole. Mais enfin, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres. C'est pas forcément l'échelle la plus pertinente. Donc une des conclusions, c'est qu'on a effectivement un investissement très important en termes de temps, en termes de collectif et en termes d'argent. Il y a quelqu'un ici qui s'occupe de CUMA, vous pourriez réagir. Hein. Il y a quand même une organisation qui est faite au niveau des CUMA pour investir dans la lutte contre le gel. C'est d'investissements qui coûtent cher. Certains exploitants peuvent investir, d'autres pas. Mais nous, de ce qu'on a vu, on n'a pas compris qu'il y avait de stratégie collective d'adaptation au changement climatique à moyen et long terme. Qu'on a vu aussi sur ce territoire, et qu'on n'a pas vu forcément sur tous les autres territoires, c'est qu'il y a une habitude d'action collective, qu'il y a une fierté de l'AOC, donc il n'y a pas de discussion sur le problème que pose le fait d'être dans une AOC. Au contraire, les vignerons, il y a plus de 20 ans, ont œuvré à ce que cette zone d'agriculture protégée, et on a vu que d'autres territoires copient cette initiative. Il faut voir à quel point ça aurait peut-être pu être un cas d'école et un cas d'exemplarité, Mont-Louis, puisqu'il n'y a pas tant de zones d'agriculture protégées que ça en France, parce que c'est extrêmement contraignant en termes de constructibilité. Il faut vraiment que ce soit le préfet qui lève ça pour qu'on puisse rendre ces parcelles agricoles à une autre utilité. Donc on ne peut pas plus contraignant en termes d'étalement urbain. Et puis, donc cette zone d'agriculture protégée, elle est très dynamique au sein du territoire de Mont-Louis. Et puis, on a quand même une grande partie du territoire qui est en agriculture biologique et en biodynamie, sachant qu'on sait qu'il y a une demande aujourd'hui de prise en compte environnementale pour les vins. On a parlé que ça peut être estampillé également sur les vins espagnols, pour ceux qui font attention à la qualité environnementale. Je vous remercie de votre attention. Merci.